C'est pas très bien d'avoir beaucoup de gras dans le corps. C'est qu'il faut manger un peu moins. Notre gros, c'est qu'on a trop stocké de nourriture qu'on n'avait pas besoin.
Peser, mesurer un enfant dès sa naissance, c'est le béaba de la prise en charge d'un enfant. Il faut calculer l'indice de masse corporelle, c'est un rapport du poids sur la taille.
Pour des chefs de projet qui mettent en place des ateliers dans les écoles, ils se rendent compte qu'on fait une thématique sur le goûter. Après, les goûters sont plus équilibrés dans les cartables. Par exemple, si on sensibilise sur des barres à eau pour redonner le goût de l'eau aux enfants, les enfants vont redécouvrir de l'eau alors qu'ils ne buvaient que des boissons sucrées.
D'abord, ce constat, puisqu'il faut bien parler chiffres, il y a en France 15,3% d'obèses, deux fois moins qu'aux États-Unis. Nous sommes dans la moyenne mondiale, mais elle comprend évidemment des régions immenses, Inde, Chine, Afrique, où sévit la malnutrition. Chez nous, ce qui inquiète les spécialistes, c'est la jeune génération. 80% des enfants obèses deviendront ensuite des adultes obèses. Et si être gros quand on est petit est source de souffrance, parfois de déprime, voire de déscolarisation, il n'y a pas de risque immédiat pour la santé, mais la adulte obèse, lui, est sujet aux maladies très graves que sont le diabète, l'hypertension, le cholestérol et certains cancers. Des spécialistes comme le docteur irlandais Oshie affirment que l'obésité tuera plus en Europe que le sida dans les années 80 et que l'épidémie de choléra qui partit d'Asie toucha Londres et Paris en 1832. Nos enfants sont déjà atteints plus que les grands. L'Irlande est le pire élève. 27% de ces petits de moins de 5 ans y sont déjà en surpoids. 23% des petits britanniques et 11% des petits Français. A noter que le Danemark est parvenu à inverser la courbe qui ne cessait de progresser chez lui. Alors que faire? L'obésité est une vraie maladie, beaucoup de facteurs jouent. Dès la période prénatale, la génétique, l'environnement familial, le moral, l'absence de sport, ensuite le grignotage. Comment départager ses causes? Comment aider sans stigmatiser? 0,6% des enfants de cadre sont obèses dès la maternelle. Ils sont 6% dans les familles ouvrières, disait la DARES. L'obésité, comment protéger les enfants? C'est un magazine signé Aurélie Kiefer. Pour écouter, commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Patrick Tougnan. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors vous êtes chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau. Et nous avons aussi invité Thibaut de Saint-Paul. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'école normale supérieure à Saclay, je crois, Paris-Saclay. Et puis vous êtes également directeur de l'INJEP, l'Institut National de Jeunesse et de l'Éducation Populaire.
Tout à fait.
Qui dépend d'un ministère peut-être?
Ville, jeunesse et sport.
Oui, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le corps désirable, paru au PUF. Et nous sommes avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Alors, ce phénomène de l'obésité peut commencer très tôt, très jeune, et vous avez voulu comprendre ce que l'on fait concrètement pour prévenir cette maladie.
Oui, on sait qu'un mode de vie sédentaire et une alimentation riche en aliments gras et sucrés sont des facteurs de surpoids. Les pouvoirs publics ont voulu agir sur ce levier. Vous connaissez les messages « manger, bouger »,« manger 5 fruits et légumes par jour ». Ils sont issus du PNNS, le Programme National de Nutrition et de Santé. Je me suis donc intéressée pour commencer au réseau des villes actives PNNS. Il rassemble officiellement 320 villes et collectivités. Bon, en y regardant de plus près, elles ne sont pas toutes si actives. Certains programmes se sont arrêtés, faute de budget. D'autres, quand la couleur politique de la ville a changé. Mais à Alfortville, dans le Val-de-Marne, j'ai rencontré une nutritionniste très engagée. Françoise Parnaudot intervient dans les établissements scolaires de la ville pour y faire de l'éducation nutritionnelle. Je l'ai suivie dans une classe de CE2 où elle se rendait avec un plateau de fromage.
On écoute votre reportage.
Alors là, aujourd'hui, on va travailler sur les fromages de France. Souvent, quand même, on se rend compte que les enfants, vous aimez bien les kiris, les samos, tous ces fromages à tartiner, qui sont en fait des fromages très très riches en gras. Ils sont souvent, on appelle ça des fromages double ou triple crème. Alors, ils apportent évidemment du calcium. Donc, nous, on les garde dans le groupe bleu, le groupe des produits laitiers. Mais ce qu'il faut pour être en bonne santé, c'est essayer de multiplier la variété de fromages que vous mangez. Mais il y en a certains que vous ne connaissez pas. Alors, avec le plateau de fromage que je vous ai apporté, je vous ai laissé un peu la surprise. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les noms. On les met là ? Moi, ce que j'ai en tête, c'est surtout de leur faire goûter et qu'il n'y ait pas d'a priori négatif sur certains aliments. Comme on l'a vu là cet après-midi, ils vont dans un premier temps aller vers les fromages qu'ils connaissent, mais c'est général pour tous les aliments. Il faut qu'ils ils aient envie, il faut qu'ils soient curieux de goûter de nouveaux aliments et c'est comme ça qu'ils vont varier au maximum leur alimentation. Et puis ça donne des consommateurs futurs intéressés, curieux, voilà, et qui ne se limitent pas. Et c'est ça le danger, en fait, c'est d'avoir une alimentation monotone, type industriel, et on mange toujours la même chose. Ça, c'est très dommage.
Vous avez l'impression que cette sensibilisation suffira à ces enfants, qu'ils sont équipés ensuite pour avoir une alimentation équilibrée? Ou est-ce qu'il faudrait des piqûres de rappel assez régulièrement?
Alors oui, bien sûr, je souhaite que ça suffise. Néanmoins, bon, je suis un petit peu sceptique parce que après, on arrive dans l'adolescence. Et en général, c'est à partir de ce moment-là que ça se complique un petit peu. On se rend bien compte qu'en maternelle et en élémentaire, quand on a intervient, les enfants sont très à l'écoute, ils ont vraiment envie voilà, de mettre en application. Ensuite, quand ils arrivent au collège, c'est un petit peu le côté aussi rébellion et ils veulent faire comme les copains, donc du coup ils oublient un petit peu ce qu'ils ont appris auparavant. Je pense quand même que c'est juste un passage et tout ce qui a été appris auparavant revient à un moment donné. Mais c'est vrai que quand on fait des interventions au collège, on voit bien que les ados, là, ils mangent un peu n'importe quoi.
Et vous leur parlez différemment aux adolescents ?
Les ados, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de diplomatie. Et j'allais dire, il faut presque mettre en avant l'alimentation qu'ils aiment. Donc en leur expliquant, par exemple, qu'ils peuvent manger McDo, etc. Mais en faisant attention à la façon dont ils vont compléter ce repas, donc en apportant plutôt un fruit en dessert qu'une glace, en leur donnant beaucoup d'équivalences. Donc je leur explique si voilà, ils ont envie de manger une pizza, il faut savoir que ça correspond à l'équivalent de pain avec de la viande, etc. Et que du coup, au repas du soir, il fera compléter par beaucoup de légumes et de fruits. Mais du coup, je leur explique qu'on ne s'interdit rien. Parce que je pense que si les ados, on leur dit dès le départ, il ne faut pas manger fast-food, il ne faut pas manger pizza, il ne faut pas boire de soda du tout, ils ne nous écoutent plus du tout et on a tout faux, je pense.
C'est super bon. C'est trop bon.
Et vous n'avez pas de repartir, on dirait. Hein, vous êtes là avec les fromages.
Oui, c'est le paradis du fromage.
Alors, bonjour à tous.
Au collège Sainte-Anne à Brest, c'est l'heure du petit déjeuner.
Là, vous allez pouvoir aller vous servir au buffet, d'accord?
Les sixièmes s'installent dans la cantine et composent leur repas en tenant compte des recommandations de Marine, l'une des diététiciennes de l'association Défi Santé Nutrition.
Et vous allez avoir des sets de table, vous allez voir des grands morceaux de papier qu'il va falloir venir mettre sur vos plateaux. Ces sets de table, ils représentent les groupes d'aliments qu'il faut pour le petit déjeuner. Et si on a faim, on augmente sa part de quoi ?
De pain,
de féculents, parce que ça nous apporte de
l'énergie.
De l'énergie, très bien. Allez, on peut y aller.
Alors, j'ai pris des fruits secs avec des abricots et des noix. J'ai pris un morceau de fromage avec un verre de jus de pomme et un bout de pain.
Ça ressemble à ton petit déjeuner habituel ?
Oui, à peu près. Sauf que je prends pas de fromage.
Est-ce que tu as appris des choses au cours de cet atelier ?
Ben, pas trop parce que j'ai déjà été voir une esthéticienne. Parce que je mangeais trop.
Et c'est toi qui trouvais que t'étais trop grosse ou c'est tes parents qui se sont inquiétés ?
Ben, en fait, c'est un peu moi et mes parents. Ben, j'avais l'impression que j'allais exploser au bout d'un moment.
Quels sont les conseils qu'on t'a donnés ?
Ben, de manger moins de féculents parce que j'en prenais un peu plus, de pas me resservir et de prendre des fruits parce que c'était bon pour la santé et de prendre du pain et du beurre ou avec d'autres choses, par exemple de la confiture, le pain parce que c'était bon pour ma santé.
Et ça a été difficile de suivre ces conseils ou ça a été
C'était un peu difficile au début mais après je me suis habituée, du coup maintenant je prends tous les jours du pain.
Tu te sens grosse encore aujourd'hui?
Non, pas trop.
Qu'est-ce que c'est ton petit déjeuner toi, habituel toi?
C'est un café mais décaféiné avec du jus d'orange et des petits gâteaux quand j'ai vraiment faim.
Ça c'est ce que tu prends tous les matins?
Oui c'est ça. Et là avec ce petit déjeuner là je me sens beaucoup mieux.
Le café ça fait longtemps que t'en prends?
Depuis que je suis très fatiguée en cours.
Tu penses que le café, ça peut te donner un petit coup de fouet, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce que sinon, une fois, je me rappelle, une fois, j'étais à côté de Justin, un ami, et à un moment, je fermais les yeux et du coup, il m'a réveillée parce que j'étais en train de m'endormir. Quand j'ai dit ça à mes parents, bah, ils m'ont dit, prends du café, ça ira mieux.
Là, avec les conseils qui t'ont été donnés, tu penses que tu vas changer des choses au petit déjeuner?
Bah oui, je vais essayer parce que là, c'est beaucoup mieux. Je me sens déjà plus calée et je trouve que c'est déjà plus sain. Avant... j'étais toujours fatiguée, alors que là, ça me donne vraiment un coup de fouet, c'est vraiment génial.
Donc, qu'est-ce que tu as pris finalement ce matin?
J'ai pris une banane, du miel avec un chocolat chaud, un jus d'orange et des céréales avec du fromage blanc.
Tout ça, tu peux le trouver à la maison ou il faudrait demander à tes parents de changer les courses?
Bah oui, moi j'ai tout ce qu'il faut, à part les céréales, c'est des complex, mais sinon, oui, on a tout ce qu'il faut.
Alors, c'était bon?
Oui, très bon.
Différent de ce que vous mangez d'habitude?
Oui, très différent.
Alors, qu'est-ce que tu manges, toi, habituellement?
J'ai pas beaucoup le temps de manger un vrai petit déjeuner équilibré. Du coup, je prends un truc rapide, comme ça. Après, je vais au bus, à l'arrêt de bus, et je mange pendant le trajet. La plupart du temps, c'est un pain au chocolat. Sachet.
Sont tes parents qui t'ont proposé de faire comme ça, ou c'est toi qui as dit « j'ai pas le temps de manger à la maison »
C'est moi qui ai décidé, parce que c'est... le collège, c'est un peu... faut speeder un peu. Du coup, on prend un truc rapide comme ça.
Mais moi, je me suis pas
rapide.
Alors là, t'as bien apprécié le petit déjeuner de ce matin. Est-ce que tu vas continuer à prendre ton petit pain au chocolat dans le bus, ou est-ce que tu dis « tiens, peut-être que je vais un peu changer »
Je vais continuer à prendre le truc. Parce que j'ai pas... Sinon, s'il faut que je prenne un vrai petit déjeuner équilibré, faut que je me lève plus tôt et faut que je me couche plus tôt aussi.
Te coucher plus tôt, ce serait pas envisageable?
Si je dois me coucher plus tôt, il faut que je change toutes mes habitudes. Ma mère travaille souvent et ma soeur, elle est en troisième. Elle a son brevet. Et moi, du coup, moi je dois faire le ménage, je dois faire à manger, un peu pour tout le monde. Voilà. Sauf que ma mère est au travail. Elle revient vers 1h du matin. Par contre, le week-end, ça, c'est différent. Je prends un vrai petit déjeuner avec ma famille. Je prends des biscottes, du beurre. Je prends pas beaucoup de fruits. Même si c'est bon pour la santé. Mais c'est bio, ce que je mange. Ma mère est végétarienne. Ma sœur aussi. Moi, je suis un peu omnivore.
Toujours à Brest, nous rejoignons une autre diététicienne de Défi Santé Nutrition, Marjorie Lavaux. Sollicitée par la mairie, elle va dans tous les quartiers, s'adresse aux adultes comme aux enfants. Ce jour-là, elle intervient dans une classe Ulysse qui accueille des élèves en situation de handicap.
Alors, on va parler de l'alimentation?
Oui.
Oui. Vous aimez bien manger ou pas?
Oui, j'ai
bien mangé. Alors, est-ce que vous les connaissez, les repas?
Petit déjeuner.
Ah, le petit déjeuner.
Le petit déjeuner.
Et à midi à la cantine, ça s'appelle comment?
Découvert.
Ça, c'est avec lequel tu...
Des fourchettes.
Le
petit déjeuner.
Nous, on intervient sur tout public. On informe tout le monde parce que tout le monde n'est pas au courant de tout. Comment on peut juger si ou non telle ou telle personne, tel ou tel secteur a besoin ou pas? C'est vrai que sur les quartiers dits non prioritaires, il y a plus d'informations. Les parents informent leurs enfants, même un peu trop d'ailleurs. C'est un peu dicté. Et pour le temps, le comportement n'est pas forcément là. Ben non, faut pas manger, il faut pas ci, il faut pas ça. Ils connaissent les familles d'aliments, enfin pour dire, ils savent ce que c'est qu'un féculent et autres, en CP, c'est pas mal. Alors qu'on va dans un autre quartier plus sensible, on voit que les connaissances sont moins bonnes. Il y a ça, et après il y a aussi les familles dont les parents ont eu des problèmes, rencontré des problèmes de poids. Souvent, elles ne veulent pas que leurs filles reproduisent le même schéma qu'elles. Donc elles les mettent dans un engrenage sans le vouloir. Fais attention, mange pas trop de produits sucrés, tu risques de grossir. C'est une volonté en plus pour elles de faire bien pour leurs enfants, mais derrière, il y a un risque qu'elles prennent du poids. Moi, je vois certaines mamans qui pensent qu'elles font mal. J'avais une formation comme ça, j'avais vu un jour, le lendemain, je la revois, elle me dit « Oh là là, écoutez, enfin, j'ai vécu un repas tranquille. » Il y a tellement une pression pour certains parents sur l'alimentation, il faut manger comme si. Et comme ça, et pas comme ça. Du coup, elles ont une espèce d'enveloppe, ça doit être la maman qui doit donner à manger bien, correctement. Du coup, bah forcément, quand l'enfant ne mange pas, comme il se doit, et comme il se doit, ça veut dire quoi ? Oh non, mais c'est ça, en cas. Et ben, hop, voilà, on culpabilise. Mais il y a un moment, on respire, il ne veut pas manger, il ne mange pas. C'est pas un drame pour cette fois-ci, quoi. Apprendre à aimer les aliments, c'est pas inné, quoi. Enfin, on est là pour découvrir les aliments. Et c'est en sachant d'où ça vient, comment c'est qu'on arrivera à mieux s'approprier l'aliment et à mieux l'aimer. Tant que nous, on a ce cadre en tant que parents, un cadre que nous, on suit, qu'on montre, l'enfant, au bout d'un moment, il va suivre. Généralement, quand il s'installe, notre enfant s'installe à 20 ans, plus tard, avec son conjoint, qu'est-ce qu'il nous appelle ? Maman, c'était quoi ta recette ? C'est pas la recette du hamburger de McDo qui nous demande. Donc, du coup, voilà. Donc, un bon petit plat familial. Donc, ça veut dire que quand même, on a réussi quelque chose. Donc, faut arrêter. On respire.
Ok. Alors, vous pouvez venir tous par ici. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu le nom du jeu ?
Grignotage.
Tout à fait. Et donc, du coup, est-ce que vous savez me dire ce que c'est le grignotage ?
Pour faire évoluer les comportements des enfants et des adultes, il faut changer leur environnement local. C'est le credo de Vivons en Forme, programme auquel adhèrent aujourd'hui 250 villes en France.
Et le goûter, est-ce qu'il est aussi important ?
Oui, pour tenir jusqu'au soir.
Non, je pense qu'il est facultatif.
C'est le moins important.
Non, pas facultatif.
Mais c'est pas primordial.
Mobiliser les acteurs locaux, cela passe par des formations. À Roncq, dans le Nord, Gaël Boulic et Raphaël Chailloux sont venus présenter des jeux à des animateurs périscolaires, à eux ensuite de se les approprier et d'en proposer des variantes aux enfants qu'ils encadrent.
Du coup, là, c'est pareil, avec les enfants, on peut débattre aussi sur leurs pratiques à eux, du coup, leur demander s'ils prennent un petit déjeuner ou pas, s'ils n'en prennent pas, pourquoi, ou leur donner des astuces, c'est-à-dire le prendre juste avant de rentrer à l'école, s'ils n'ont pas faim dès qu'ils se lèvent, en profiter pour mettre un message sur la collation matinale, etc.
Voilà.
Merci.
Pour mesurer vraiment l'impact global du programme sur le public final, c'est-à-dire les enfants ou les familles, là, on a deux principales évaluations. La première, c'est le recueil taille-poids des enfants, donc l'IMC, et ça, c'est réalisé par les infirmières scolaires des écoles. Les villes adhérentes au programme le font à l'entrée du programme et ensuite environ tous les 2-3 ans, suivant les ressources humaines dont ils disposent, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, etc. Nous, au niveau de la coordination, on leur fait l'analyse. On a vraiment une diminution du surpoids et de l'obésité, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de temps. Donc par exemple, on a des résultats sur 5 ans, 10 ans, mais au bout d'un an, voilà, faut pas rêver, on va pas avoir un impact sur le surpoids et l'obésité. C'est vraiment justement les formations et la régularité des actions mises en place avec les enfants qui permettent d'avoir des résultats comme ça. Et la deuxième chose qu'on a construit, donc là avec l'Université de Lille 2, c'est des questionnaires de comportement. Et là, le but, c'est de savoir si justement, suite à l'entrée dans le programme, on arrive à avoir des changements de comportement de la part des enfants. Donc sur le petit déjeuner, sur la collation matinale, sur le grignotage, sur l'activité physique, etc.
Pour des chefs de projet qui mettent en place des ateliers dans les écoles, ils se rendent compte que parfois, voilà, qu'on fait une thématique sur le goûter, bah, après les goûters sont plus équilibrés dans les cartables. Par exemple, si on sensibilise sur des barres à eau, donc pour redonner le goût de l'eau aux enfants, bah, les enfants vont redécouvrir de l'eau alors qu'ils ne buvaient que des boissons sucrées. Le sommeil aussi, on a des retours que voilà, il y a des enfants qui arrivent mieux à dormir, alors pas qui ont moins d'écrans parce que les écrans, voilà, c'est un peu compliqué, mais petit pas par petit pas. Si toutes les structures de la ville se mobilisent, restauration scolaire, la petite enfance, les enseignants, donc l'école, le périscolaire, le réseau associatif, le réseau sportif, si tous les acteurs de la ville se mobilisent pour essayer, dans une dynamique de vivre en forme et d'être en bonne santé, on peut tout à fait obtenir de bons résultats.
Alors, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo tous les jours ?
Non, oui.
Ben, c'est pareil, moi j'aurais dit oui, par exemple. Mais si c'est, par exemple, une demi-heure par jour, est-ce que c'est...
Un temps restreint tous les jours.
Voilà.
tu vois, c'est pas compliqué de... C'est, voilà, c'est... Après, faut pas rentrer dans le jugement, parce que...
Non, non, pas dans le jugement.
Dans un débat avec un enfant où la famille, elle l'autorise à jouer, par exemple, tous les jours, ou boire un verre, je sais pas, peut-être tous les jours, mais en petite quantité, et ben, il va rentrer en disant à ses parents, ben non, normalement, il faut pas boire tous les jours, alors qu'au final... Quand tu calcules sur une semaine, par exemple, ça rentrerait dans le même... C'est délicat, hein.
Donc, je m'appelle Émilie et je gère des petites sections, des moyennes sections et des grandes sections. Voilà, donc, c'est de 2 ans et demi à 6 ans. Je pense que le jeu des grignoteurs va beaucoup plaire à mes enfants parce qu'ils adorent se taquiner entre eux. Donc là, il va falloir arrêter les enfants en cours de route. Donc je pense que ça va bien leur plaire. Avec les maternelles, oui, ça va passer beaucoup par le toucher, par les 5 sens en fait, le visuel. Voilà, il faut toujours essayer d'attirer leur attention parce qu'elle est très très... Enfin, leur concentration est très très limitée. Il faut toujours changer, avoir plein de trucs dans sa valise pour pouvoir capter leur attention. En fait, on va toujours essayer d'intégrer une partie jeu et une partie apprentissage.
Et là, on vous parle beaucoup de l'équilibre alimentaire. C'est quelque chose sur lequel les enfants auraient vraiment besoin d'apprentissage.
La plupart de mes enfants en garderie ne prennent pas de petit déjeuner. On fait 10 minutes de sport, ils sont déjà crevés. Donc je pense que c'est important de travailler sur cet axe-là et de se prendre en main, enfant comme adulte.
Il y a déjà des signes inquiétants parfois chez des enfants ?
Ouais. Moi j'ai un petit... Bah, maintenant il est passé chez les primaires. Déjà à 11h30, sa maman venait le récupérer parce qu'il ne venait pas à la cantine. Donc elle venait avec une boîte de gâteaux. Quand il revenait à 13h30, il avait mangé saucisses frites parce qu'il ne mangeait que ça. Quand j'en ai parlé avec la maman, parce que parfois c'est vrai que les enfants ils exagèrent un petit peu, elle m'a dit non, il aime que les pommes de terre et les saucisses, donc je lui fais que ça. Et c'est vrai que malheureusement ça se voyait physiquement. Et mentalement, parce que c'était un garçon très renfermé, très timide, qui était déjà complexé, je pense, par son corps. Et en plus, quand on faisait des exercices tous ensemble, il était toujours fatigué, il peinait à courir. Et du coup, les autres copains le voyaient, le remarquaient, disaient parfois des choses pas très sympas. Donc je pense que c'est important, dès cet âge-là, déjà, de se prendre en main.
C'est pas très bien d'avoir beaucoup de gras dans le corps. C'est qu'il faut manger un peu moins. Le trop gros, c'est qu'on a trop stocké de nourriture qu'on n'avait pas besoin. On mangeait plus qu'on avait besoin. Il faut prendre autant qu'on en a besoin, pas plus.
Et à part ce qu'on mange, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire à côté ?
Oui, beaucoup d'exercices, du sport, de la course, des arts martiaux, de la gymnastique, pour bouger, pour enlever tout le gras du corps.
Bien manger n'empêchera pas forcément l'obésité. Cette maladie complexe a souvent des causes multiples, il y a notamment des facteurs génétiques, et dans des cas exceptionnels, l'obésité peut apparaître dans les 2 premières années de vie. Pour mieux repérer les cas d'obésité infantile, et pour intervenir de la façon la plus appropriée, des professionnels de santé se sont réunis au sein de réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Le pédiatre Amin Arsane a cofondé le réseau d'Île-de-France.
Alors, peser, mesurer un enfant dès sa naissance, c'est le béaba de la prise en charge d'un enfant. Il faut calculer l'indice de masse corporelle, c'est un rapport du poids sur la taille. Les logiciels médicaux dont tout le monde est équipé maintenant le font, il faut les regarder. Le carnet de santé doit être rempli. Nous, pédiatres, on veut que le carnet de santé soit un instrument de dialogue autour de la santé de l'enfant, c'est sa carte d'identité sanitaire, et on n'a pas le droit de ne pas alimenter cette carte d'identité sanitaire qui est le carnet de santé de l'enfant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ouvre un carnet de santé, de voir l'histoire du patient. Donc, ça se détecte très tôt. Et nous avons des consignes très strictes pour les médecins du réseau d'être très vigilants et de détecter dès qu'il y a des modifications de l'évolution de la courbe de croissance et de l'indice de masse corporelle. Il faut que les médecins soient attentifs et dépistent tout de suite les irrégularités de la croissance.
Parce que plus le dépistage se fera tôt, plus on pourra agir.
Plus on prend en charge tôt pour les obésités classiques, mieux sera le résultat. Vous prenez en charge à 3 ans une dérive de la courbe, vous réussissez à corriger les choses. vous prenez en charge un adolescent à 13-14 ans, malheureusement, il y a 75% de risque que son obésité ne se corrige pas. Si on peut la stabiliser, c'est déjà pas mal.
La définition du succès et de l'échec est finalement relativement subtile.
Jean-Claude Carrel, pédiatre, chef du service d'endocrinologie, diabétologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré.
Notre objectif, c'est pas de ramener les gens à un IMC ou un poids pour leur taille qui soit parfaitement normal. En revanche, notre objectif, c'est finalement d'améliorer l'évolution de la courbe de poids, en sachant que chez l'enfant, l'obésité est un phénomène dynamique. Vous prenez quelqu'un qui a 50 ans, qui est obèse, sa situation est stable, alors qu'un enfant, finalement, on a entre guillemets la chance d'avoir souvent des enfants qui sont dans une phase d'obésité dynamique où ils ont pris beaucoup de poids, ils ont une courbe d'IMC qui a vraiment flambé au cours des dernières années. Et ça, c'est des situations dans lesquelles finalement on peut corriger le tir et on peut ramener finalement la courbe d'IMC, non pas à la normale au sens statistique du terme, mais finalement vers la normale et profiter du fait que les enfants grandissent et d'être dans cette situation dynamique pour améliorer les choses. Pour autant, les impacts de l'intervention sur la courbe d'IMC sont relativement modestes. On n'a pas de baguette magique, sauf exception.
À l'hôpital Robert-Debré, dans le 19e arrondissement de Paris, le service de Jean-Claude Carrel prend en charge des enfants atteints d'obésité sévère. Certaines familles sont venues spontanément, d'autres sous la pression de leur médecin traitant. La psychologue Charlotte Lebrun reçoit les jeunes patients et leurs parents pour faire le point sur leurs attentes.
Il y a des familles pour qui il y a un peu parfois un discours fataliste dans le sens où dans la famille on est des gros mangeurs, dans la famille on a toujours été un peu en surpoids, c'est comme ça, et puis on avance. Hein. Et du coup prendre le temps avec les parents et avec l'enfant de réfléchir un petit peu comment est-ce qu'il se sent, parce qu'il y a quand même des répercussions importantes au niveau... L'image du corps, l'estime de soi, il peut y avoir pas mal d'affects dépressifs aussi autour de cette obésité. Prendre le temps de réfléchir un petit peu à la situation de l'enfant, ça permet aussi que l'enfant et les parents prennent conscience du mal-être qui peut exister et du coup qu'il y ait une demande d'action, une demande de prise en charge autour de ce mal-être. Si on met le patient au centre et il se rend compte petit à petit que il en souffre parce qu'au sport, il n'arrive pas à courir comme les autres, qu'on se moque de lui, qu'il peut pas trouver les vêtements qu'il souhaite, etc. Si on met un petit peu des mots tout autour de ça, si l'enfant met des mots sur tout ce qu'il vit, ça va permettre de faire émerger une demande et par la suite de travailler autour de ça, avec un objectif qui est son objectif et qui n'est pas l'objectif médical, qu'il soit en bonne santé. Là, c'est vraiment son objectif de je veux être bien dans mon corps, je veux être bien dans ma tête. Un des messages que je fais passer lors de mes consultations, ce sur quoi on travaille aussi énormément, c'est en quelque sorte le deuil de la guérison rapide. Ils arrivent à l'hôpital, ils rencontrent, on fait de l'éducation thérapeutique, ils rencontrent le diététicien, le médecin, etc. Ils sortent de l'hôpital souvent avec une motivation qui est au top, des projets qui sont grandioses. Et c'est important de prendre le temps avec eux d'analyser en quelque sorte quelles sont mes motivations pour suivre les conseils diététiques, médicaux, et quels vont être mes freins. Qu'est-ce qui va me freiner dans mes motivations? Qu'est-ce qui potentiellement va faire que tous ces conseils, ça va durer peut-être qu'une semaine au lieu de l'équilibre alimentaire et normalement toute la vie. Donc on travaille énormément sur les freins et sur ce deuil de guérison rapide qui est que je vais faire beaucoup d'efforts pendant une semaine, deux semaines, mais dans le cas de l'obésité, les répercussions positives de tous ces efforts, ça ne va pas être dans deux semaines, ça va peut-être être dans un mois, peut-être dans deux mois, et donc ça, le fait de le dire et d'en parler, ça aide déjà énormément, et ça me remet un peu de réalité dans tous ces fantasmes de guérison rapide, dans toutes ces motivations qui sont trop hautes, et qui risque d'amener un sentiment d'échec qui fera que, au bout d'un moment, on baisse les bras parce qu'on essaye et puis ça ne fonctionne pas aussi rapidement et aussi bien qu'on le souhaiterait.
Je vais mettre de l'eau et du sucre et de l'huile. J'ai goûté.
Tu peux mettre dans une poêle l'huile avec un steak. Tu fais ça.
Tu mets de la sauce au poulet et tu mets de l'eau et du sucre.
Ah ouais.
Mais j'ai jamais goûté. J'essaye de goûter.
Et pourquoi il n'y a pas de ketchup?
Il y a pas de ketchup?
Il n'y a pas de ketchup dans les aliments.
Bah, c'est, la tomate, c'est fait avec ketchup. Hein. C'est tomate, puis rajouter sucre, et après c'est écrasé.
Il y a beaucoup de confusion au sujet de l'alimentation. Les familles mélangent les notions bio, OGM, gluten, perturbateurs endocriniens. Les habitudes alimentaires s'appuient aussi sur des croyances et des traditions bien ancrées qu'il est difficile de faire évoluer. Laila Waïcha, diététicienne nutritionniste, s'efforce d'apporter des réponses adaptées à chacun.
Je sais que dans, par exemple, des cultures plus africaines, on va avoir moins de produits laitiers parce que c'est pas moins dans leurs habitudes. Après, nous, on va plutôt encourager un verre de lait qui peut se prendre facilement au moment du repas. La notion de quantité aussi, il peut y avoir des plats communs où la famille mange autour d'un seul plat. Et là, c'est difficile de quantifier tout ça. Donc, c'est vrai que comme tout le monde se sert en cuillère à soupe, on va travailler avec cet outil-là. C'est à nous aussi de s'adapter et de mettre en place des petites choses comme un verre de lait qu'il peut prendre ou pour lui apporter son calcium. Et c'est comme ça qu'on travaille.
Parce que vous n'allez pas dire il faut complètement changer de manière de manger.
Surtout pas. Surtout pas, parce qu'ils ne le feront pas de toute manière. Et puis c'est important aussi de respecter ça.
Puisque vous avez des familles qui peuvent avoir des moyens plus ou moins importants, est-ce que ce n'est pas un frein ensuite à la mise en application justement de vos conseils?
Ça nous adapter souvent. Alors, en plus, c'est des parents qui essayent de bien faire. Moi, j'ai eu une famille la semaine dernière qui mangeait essentiellement du premier prix. Et quand la fille a été hospitalisée, elle m'a dit « Non, mais quand on va rentrer, on va manger que bio parce que c'est mieux pour elle. » Leur expliquer que c'est correct de manger en conserve, c'est correct de passer vers la fin du marché pour prendre des légumes et des fruits qui sont moins chers. C'est correct si l'enfant ne mange pas de viande forcément le soir. Voilà, et de déculpabiliser aussi ça, parce qu'il y a une culpabilité aussi des parents qui se disent « c'est parce qu'on est pauvres, en fait ». Donc, c'est aussi, nous, de dire que c'est possible de manger équilibré en n'ayant pas un budget. Au contraire, même, il y a des choses, les boîtes de conserve, les boîtes de thon, enfin, c'est des choses qu'ils peuvent manger et qui apportent aussi ce qu'ils ont besoin, quoi. Des fois, il n'y a pas forcément de quoi cuisiner aussi, il n'y a pas de four, ils ont juste deux plaques chauffantes. Et puis, donc, c'est compliqué de faire des plats un peu plus élaborés. Il faut en tenir compte aussi. Bien sûr que ça a un grand impact sur notre prise en charge. Ça, on en tient compte systématiquement, bien sûr.
Et donc, vous n'aurez peut-être pas toujours les réponses appropriées?
Non, mais on leur apprend qu'on peut aussi composer avec. Des fois, ils se rendent compte que... par exemple, qu'ils ne peuvent pas inscrire leur enfant en activité sportive et que de l'autre côté, y a un budget pour des fast-food, pour des gâteaux, etc. Donc, c'est vrai que quand on raisonne comme ça en disant si vous économisez 5 euros par semaine et que dans l'année, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir accès à une activité sportive au niveau de la mairie ou ce genre de... d'apporter un peu des solutions aussi et de se rendre compte que c'est possible.
Le mécanisme exact par lequel le fait d'être dans des conditions socio-économiques défavorables rend obèse est compliqué à définir. Moi, il y a un exemple qui m'a vraiment frappé. C'est une étude qui a été faite dans la région de New York il y a quelques années, qui porte pas sur l'enfant, mais qui porte sur l'adulte. Mais je pense que le message, il est vraiment similaire. Et dans lequel ils ont ciblé des populations précaires et obèses, et qui habitaient dans des zones défavorisées du Bronx. Et ils ont partagé l'échantillon en deux de façon randomisée. Il y a certaines personnes à qui ils donnaient un accès gratuit aux soins, dont on sait aux États-Unis qu'il est problématique. Et donc, du coup, ils pouvaient aller voir le médecin pour des consultations diététiques, diabétaux, etc. Et puis l'autre moitié, ils leur ont donné des coupons pour pouvoir accéder à des logements dans des zones non défavorisées. Mais par contre, ceux-là n'avaient pas l'accès aux soins. Et donc, ils ont regardé, au bout de quelques années, quel était le groupe qui avait le mieux évolué. Eh bien, c'est le groupe qui avait déménagé, qui avait évolué de façon beaucoup plus favorable que le groupe qui avait un accès aux soins.
C'est troublant pour un médecin.
C'est ce que je pensais. en vous le disant. Bien sûr que c'est troublant, mais ça souligne finalement le fait que le médecin arrive par rapport aux situations dans lesquelles le social est au centre de la causalité. Le médecin, il arrive un peu comme pompier de service et dans une situation où le feu est déjà parti, et ça indique toute la complexité de notre action.
Alors, est-ce que je peux vous demander d'utiliser seulement vos mains sans vos yeux?
Oui.
Je vais vous donner une chaussette.
Une chaussette?
Ah, ah. On va faire ça. Vous allez glisser votre main à l'intérieur de la chaussette. Il y a un aliment qui s'y cache.
Des haricots.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Des haricots rouges.
Comment c'est
rouge? Bah
oui.
Bah, devinez. Les haricots rouges.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Obésité, comment protéger les enfants? C'était un reportage d'Aurélie Kiffer réalisé par Yacine Bouzard et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, le professeur Patrick Tougnan, nutritionniste à l'hôpital Trousseau, et le sociologue Thibault de Saint-Paul. Avec une première question, on va vraiment rebondir sur ce qui vient d'être dit à la fin. Sur cette question, le médecin disait le social est finalement au centre de la causalité de tout ce qui peut être obésité, problème d'obésité. Est-ce qu'il y a une véritable corrélation entre les inégalités sociales et l'obésité? Je vais m'adresser d'abord à vous, Thibault de Saint-Paul.
Alors oui, tout à fait. Vous avez cité le chiffre tout à l'heure. On a 11% en France des enfants de 6 ans qui sont en surpoids ou obèses. Mais derrière ce 11% se cachent de fortes inégalités sociales. Vous en avez seulement 9% chez les enfants de cadre et 14% chez les enfants d'ouvriers. Donc 5 points d'écart, ce qui est considérable. Et en fait, c'est s'imbrique tout ce qui est lié à la génétique, à ce qui est lié au médical et au social. Et la caractéristique de l'obésité, c'est justement qu'on a une imbrication entre ces différentes dimensions. Mmh. Et donc se croisent des dimensions liées à l'alimentation, mais on l'a vu aussi au logement, l'ensemble des inégalités se répondent les unes aux autres. Et donc c'est pas étonnant finalement que des ménagers puissent jouer sur l'obésité des enfants.
Professeur Tougnan, vous qui êtes médecin, est-ce que vous êtes aussi d'accord sur finalement cet environnement qui serait absolument crucial?
Alors je suis d'accord qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'obésité. Mais beaucoup croient que c'est la pauvreté qui rend obèse, alors que c'est l'inverse, c'est l'obésité qui rend pauvre. Et ce qu'a décrit Jean-Claude Carrel très très bien, pourquoi les adultes, quand ils vont dans des endroits favorisés, maigrissent, c'est un peu ça, hein, parce qu'ils sont dans un environnement qui les motive. Ça ne s'applique pas du tout à l'enfant. L'enfant, surtout le jeune, n'a pas cette même motivation. Donc pourquoi il y a plus d'enfants dans les familles les plus précaires? Parce que leurs parents sont plus souvent obèses. C'est-à-dire que quand on est obèse, on a une discrimination qui pousse vers les couches défavorisées de la population et donc on a plus d'obèses dans les couches défavorisées de la population et moins dans les couches favorisées. Et donc les adultes obèses ont plus souvent des enfants obèses. Mais les enfants obèses sont beaucoup moins sensibles à l'environnement, c'est-à-dire qu'ils sont moins motivés en voyant un environnement qui les inciterait à maigrir.
Une question d'Aurélie Kiffer.
Thibault de Saint-Paul, vous avez la même analyse?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ça joue dans les deux sens. Qu'on a un facteur de discrimination, mais on a aussi un effet de causalité de la pauvreté, qui est lié, on l'a vu, à l'alimentation, à des pratiques alimentaires, mais aussi à l'environnement. Quand on parlait du logement, on a beaucoup entendu dans le reportage parler des heures de sommeil. Quand les enfants, pour des questions de logement, se retrouvent avec des grands frères ou grandes sœurs plus âgés dans la même chambre, avec des tablettes qui se couchent plus tard, on a des effets, par exemple, sur le coucher de ces enfants, et donc potentiellement sur leur santé et sur l'obésité. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent aussi conduire à l'obésité. Mais ce que soulignait le professeur Tougnan est vrai aussi. On a ces facteurs, ces effets de sélection, de discrimination qui sont aussi très forts.
Mmh. Alors, Thibault a raison chez l'adulte, mais chez l'enfant, ça ne s'applique absolument pas. Chez l'adulte, c'est totalement vrai. L'obésité chez l'enfant, on va le dire tout de suite, c'est une maladie génétique, c'est une injustice de la nature. Moi qui vois des enfants obèses depuis 27 ans, je peux vous le dire, tout le monde connaît des enfants très nombreux qui mangent n'importe quoi et qui restent minces. Il faut bien voir que l'obésité est une injustice de la nature et qu'on naît obèse, et on ne le devient pas parce qu'on mange mal.
Et mais ça veut dire que tous les adultes ont été des enfants obèses aussi ?
Absolument pas. 85% des adultes obèses n'ont pas été obèses durant l'enfance. 85%. Donc c'est ça qu'il faut voir et c'est le message principal. Parce que toutes les familles souffrent. On leur dit effectivement, vous avez acheté, vous n'avez pas d'argent, vous avez acheté des mauvaises choses à manger, vous avez rendu votre enfant obèse. Heureusement, c'est faux. Et c'est une injustice de la nature, c'est ça que je répéterai. Et pour que ces familles souffrent beaucoup moins, parce qu'elles souffrent, moi je les vois souffrir, parce qu'elles souffrent, il faut leur retirer de la tête que c'est des mauvais parents, c'est des mauvais enfants, c'est des enfants gourmands, des enfants fainéants. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est une injustice de la nature.
Une question d'Aurélie. Mais si on parle de l'enfant en surpoids et non pas l'enfant obèse, là on peut peut-être nuancer votre propos ?
Pas du tout. La corpulence est génétiquement déterminée de la maigreur extrême à l'obésité extrême. Vous avez aussi des gens qui sont maigres, qui énervent. Moi, j'ai déjeuné récemment avec un de mes amis qui a mangé deux fois plus que moi et qui est deux fois moins gros que moi.
Donc, enfin, vous n'êtes pas très gros.
Il y a une injustice totale. La corpulence est quelque chose qui est très génétiquement déterminé. Et quand on s'occupe d'enfants, moi j'ai la chance, je vois des enfants très maigres qui viennent me voir et des enfants très gros qui viennent me voir. Je peux vous dire que c'est une injustice totale. Et il faut répéter ce mot-là parce que les patients le savent. Et quand ils entendent, ah ben c'est parce que tu bois trop de soda, tu vas trop au fast-food, alors que c'est faux. Je peux vous dire,
oui, c'est faux. On a compris, c'est bien génétique. Voilà,
c'est constitutionnel, c'est un peu plus complexe que la génétique. Mais le message, c'est que c'est pas de leur faute.
Thibaut Saint-Paul, est-ce qu'il y a une différence de perception pour les petits, les petites filles et les petits garçons par rapport à l'obésité ? Parce que le professeur Tounurin a l'air de dire qu'ils n'en souffrent pas, ou en tout cas qu'ils ne sont pas stimulés dans un environnement avec des maigres, mais être gros et petit, c'est quand même pas évident.
Tout à fait. Hein. Je partage pas totalement cette lecture génétique et depuis une dizaine d'années, mais la conclusion est la même. C'est-à-dire que je partage cet avis qu'il y a une très forte culpabilisation, et notamment des petits, qui ne se justifient pas. Il reste qu'effectivement, on est tous inégaux face à la prise du poids génétiquement, et que face à un contexte différent, notre corps stocke plus ou moins. Il reste que qu'on trouve que le fort lien entre obésité et pauvreté, à mon sens, ne se limite pas à la génétique, mais aussi à des pratiques notamment culturelles. Et on le voit quand on observe les différences territoriales, les différences entre quartiers, qui tiennent aux génétiques, mais pas seulement à mes yeux. Alors sur la question des représentations, elles sont très différentes entre hommes et femmes, mais aussi chez le petit garçon et la petite fille, et là aussi différentes selon les milieux sociaux. On observe par exemple des études qu'on a plutôt tendance à faire finir son assiette au petit garçon, qu'on a des représentations liées à la croissance, notamment dans les milieux plus populaires, qui on surveille la croissance de l'enfant, qui peut aller moins avec la surveillance du poids. Et donc, ces différences de représentation sont, dès le plus jeune âge, présentes entre garçons et filles.
Aurélie, il peut y avoir un déni, en fait, de l'obésité de la part des parents, parce qu'ils estiment qu'ils ont eu un beau bébé, parce qu'il était gros. Donc, pour eux, c'est un signe de...
Mais ils ont raison. Avoir un beau bébé, c'est bien. Il ne faut pas les obliger. Et d'ailleurs, dans le reportage, mes collègues le disaient bien. Il faut dépister, Amine Hartsan le disait. Il faut le dépister, mais il ne faut pas obliger les familles à les prendre en charge. L'obésité de l'enfant n'est pas une maladie grave. Je parle au niveau somatique. C'est terriblement difficile au niveau psychosocial, surtout quand on grandit, mais ça n'est pas... Dans notre service, qui est le service de référence français en matière d'obésité, nous, à moins de 120 kilos, ils viennent pratiquement pas dans le service. Je compte sur les doigts d'une main les complications graves que j'ai eues chez les 10 000 patients qui sont passés dans mon service. 10 000.
Enfants.
Entre enfants, moins de 18 ans, entre 120 et 250 kilos, sur les doigts d'une main. Par contre, les souffrances, c'est systématique. C'est 100%. Donc, il faut orienter l'obésité de l'enfant vers des problèmes psychosociaux. C'est la souffrance de ces familles qu'il faut exprimer. Et je pense que toutes celles qui m'écoutent le comprennent très bien. On les accuse de beaucoup de choses, alors qu'elles ne sont pas responsables.
Mais on peut les soigner, d'accord, puisque vous disiez tout à l'heure que la plupart des adultes obèses, finalement, enfin beaucoup d'entre eux n'ont pas été forcément des enfants obèses, donc j'imagine que peut-être les enfants obèses peuvent ne pas devenir des adultes obèses. Que faites-vous ? Comment faites-vous ? Parce qu'on imagine que
alors
c'est
oui, on peut les soigner, mais là aussi, c'est pas simple. Pour soigner...
On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage.
Oui. Il faut lutter, encore une fois, c'est la nature qui les rend gros. Donc il faut lutter contre sa nature. Donc ces enfants ont faim. Et le reportage était assez amusant parce que les enfants jeunes répètent parfaitement ce qu'on leur dit. C'est des perroquets. Mais ils ne comprennent pas. Moi, je vois mes patients. Les parents me disent, mais je comprends pas. Je lui dis juste avant de manger qu'il faut qu'il mange ci et ça. Et au cours du repas, il me dit, mais pourquoi j'ai pas le droit à mon dessert? Pourquoi j'ai pas le droit à ça? Mais je lui dis, il répète pour vous faire plaisir. Mais il ne retient pas.
Mais il y a beaucoup d'incompréhension d'ailleurs sur les notions de fréquence ou de portion, parce qu'on retient les aliments, mais après... Pas...
Quand on s'occupe d'enfants tout court, et vous en avez peut-être, et ceux qui nous écoutent en ont, quand un enfant a plus faim, il lui reste parfois un petit morceau dans son assiette, il dit stop. La différence entre l'obèse et les autres, c'est que son niveau de satiété est beaucoup plus élevé. Et donc, il mange davantage. Mais ce n'est pas parce qu'on lui donne trop à manger qu'il devient obèse, c'est parce qu'il est capable de manger davantage. Quand on s'occupe d'enfants obèses, comme je le fais depuis près de 30 ans, on sait très bien qu'un enfant s'arrêtera dès qu'il n'a plus faim.
Et s'il a toujours faim, alors comment fait-il pour s'arrêter?
C'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut le restreindre. C'est très difficile, il ne va pas comprendre, surtout quand il est très jeune. Il va réclamer à manger et il faut essayer de l'occuper. Il faut essayer de trouver des moyens de remplir son estomac avec des légumes, avec de l'eau. Mais je peux vous assurer que c'est très difficile. Et avant 8-10 ans, c'est très très rare qu'un enfant puisse se mettre au régime. Par contre, vers 10, 12, 14 ans, ça dépend de la maturité, ils se mettent au régime. Notamment au moment où ils veulent séduire le sexe opposé, où ils veulent s'habiller, où ils veulent faire du sport. Et c'est là où on a un créneau, et Jean-Claude Carrel le disait, un créneau pour les attraper et pour les motiver.
Aurélie Kiffer, mais on dit qu'on ne guérit pas vraiment de l'obésité.
75% des enfants de plus de 10 ans restent obèses. Donc chez ceux-là, on ne guérit pas. Mais, et Amine Harsan le disait bien, il disait quand on prend en charge des enfants très très tôt, on arrive à les faire maigrir. En réalité, c'est une évolution spontanée. 80% des enfants gros avant 2 ans ne le restent pas. C'est une évolution spontanée. 60% des enfants gros avant 5 ans ne restent pas.
Mais comment on explique ça?
Ils sont programmés comme ça. Ils sont programmés pour être gros au départ. Dans les familles africaines...
Mais
ce n'est
pas une question, on ne les persuade pas de ne pas manger.
Non, c'est spontané. Les familles africaines, moi souvent, on voit des enfants africains, donc on les amène, ils sont gros. Les parents, je vais les voir, mais ils me disent, vous savez docteur, moi dans ma famille, ils ont tous été comme ça. Ils étaient gros quand ils étaient petits, puis après ils m'insistent. Alors ils ne deviennent pas très minces, mais ils m'insistent. Je leur dis, vous avez raison, on va le laisser tranquille, votre enfant.
Thibaut de Saint-Paul, sur toutes ces questions en matière de prévention, est-ce que vous trouvez, par exemple, on entendait tout à l'heure les slogans qui existent, que les pouvoirs publics mettent en œuvre, on les connaît tous, hein, manger, bouger, etc. C'est efficace, ça peut jouer?
Alors, c'est compliqué parce que ces slogans, ils proposent des normes qui sont difficiles à comprendre et qui parfois sont opposées aux pratiques des populations qui sont les plus touchées. Et on voit par exemple que certains slogans comme « pour la santé de votre enfant, donnez-lui à manger équilibré sur une barre de céréales », il peut être perçu comme « il ne faut pas que je donne de la barre de céréales » ou dans un autre milieu où on va surveiller la croissance, la robustesse de son enfant, on va donner la barre de céréales. On a des études qui montrent très bien qu'on a des perceptions
avec le même message,
les représentations vont conduire à des interprétations différentes. L'autre difficulté, et le professeur Tounian le pointait tout à l'heure, c'est la culpabilisation. Et on voit très bien que ces campagnes ont comme effet pervers une culpabilisation de ceux qui sont les plus corpulents. D'où l'intérêt des initiatives dont on a parlé dans le reportage, qui sont beaucoup plus ciblées et qui portent au niveau local et qui imbriquent les différents acteurs autour de l'enfant.
Alors, vous parliez de la culpabilisation. Moi, à l'inverse, ce que j'ai entendu partout où je suis allée, c'est il faut surtout pas les culpabiliser, il faut surtout pas les stigmatiser, à tel point qu'à certains moments, on a l'impression que ça va être drôlement difficile de faire passer un message parce qu'on marche tellement sur des œufs qu'il est assez délicat d'expliquer vraiment ce qui serait bon.
Moi, je crois vraiment qu'il y a une imbrication entre les facteurs génétiques dont on parlait tout à l'heure et le social, et notamment les cultures alimentaires, la manière dont on mange, le rythme de la journée alimentaire, et que culturellement, par exemple, la construction autour de 3 repas, à table, assis, est quelque chose qui nous protège parce qu'il y a un certain contrôle, il y a beaucoup de rituels, et que l'apprentissage de ces codes et cette ritualisation est extrêmement importante. Et ce qu'on observe, nous, alors avec des études à distance, donc pas avec la même pratique que le professeur Tounian, c'est qu'il y a un lien quand même entre ces déstructurations et puis les familles dans lesquelles on va observer qu'il y a une obésité qui est plus élevée. Le fait de sauter le petit déjeuner, le fait de se coucher plus tard, comme on l'entendait dans le reportage. Et donc on s'interroge sur la manière dont on pourrait jouer sur ces facteurs.
Oui, Patrick Tounian.
Je vais juste répondre à Thibaut de Saint-Paul, qui est un sociologue et un statisticien hors norme que j'aime beaucoup. Hein. Vous êtes d'accord pour dire que quand on a un lien entre deux paramètres, on ne sait pas où est la poule, où est l'œuf.
Bien sûr.
Par exemple, le petit déjeuner, les enfants obèses prennent moins de petit déjeuner. Mais là encore, heureusement, contrairement à ce que les vendeurs de petit déjeuner laissent croire, c'est pas parce qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner qu'ils sont gros, mais c'est parce qu'ils sont gros qu'ils prennent pas de petit déjeuner. Et donc nous, dans le service, un enfant obèse qui ne prend pas de petit déjeuner, on l'oblige pas surtout à en prendre un. Donc c'est tout le problème des statistiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est la poule, où est la cause, où est la conséquence. Excusez-moi,
je... Non, mais voilà. Je vous en prie, bien sûr. Oui. Mais c'était pour aller dans le même sens. Par exemple, est-ce qu'on parlait tout à l'heure des messages des autorités sanitaires? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, l'étiquetage des aliments peut aider les familles à mieux nourrir leurs enfants et que ça a ensuite une conséquence sur l'obésité ou le surpoids?
On est dans un pays où on aime manger. Et donc, apprendre aux enfants, par exemple, à connaître les fromages français, c'est fantastique. Apprendre aux enfants à bien aimer la bonne nourriture, qui est bien sûr indiscutablement meilleure que les fast-foods ou les nourritures industrielles, c'est très très bien et je suis content qu'on puisse la promouvoir. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que ça va avoir une influence sur l'obésité? Ni les études, qui sont toutes unanimes, en tout cas celles qui sont bien faites, ni surtout notre expérience, ne permettent de dire que ça a une quelconque efficacité.
Aurélie.
Alors, les associations d'obèses ont interpellé les candidats à l'élection présidentielle. Ils réclament un plan obésité. Eux, ils sont très en demande d'actions de prévention et également d'une évolution de l'environnement, c'est-à-dire des actions sur l'urbanisme, par exemple des créations de pistes cyclables, etc. De créer tout un environnement plus favorable à une vie plus saine. Thibaut de Saint-Paul.
Alors, moi, je partage pas totalement l'avis de Patrick Tounian.
Non, mais vous êtes là pour discuter, il n'y a pas de problème.
Je pense qu'effectivement, on sait, le sujet corrélation statistique, on ne sait jamais dans quel sens ça va, surtout qu'on est dans des sujets qui sont très complexes. Et comme on l'a dit, l'obésité répond à de multiples facteurs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut bien distinguer obésité et surpoids. Hein, 11% surpoids et obèse, mais que 2% d'enfants obésité. Donc on parle d'une
petite partie. Oui, si on parle d'obésité, c'est 2-3% en France seulement.
Voilà. On a un certain nombre de programmes, comme Vivons en Forme qui était présent dans le reportage, dans lequel ont été mis en place des évaluations. C'est toujours très compliqué, mais il semble quand même montrer que sur le long terme, au bout de 5-6 ans, on a quand même une diminution des enfants qui ont une corpulence élevée. Mais il y a une imbrication de différents programmes, avec à la fois les médecins, les autorités locales, une prise en compte de l'environnement, et on a un certain nombre d'études qui montrent que ces facteurs peuvent jouer. Alors on a beaucoup d'études sur l'adulte, comme le disait le professeur Tounian, mais dès lors qu'on considère que le social joue aussi...
Oui, bah justement, moi j'ai trouvé une question piège pour le professeur Tounian.
Ah, j'adore les questions pièges. Voilà, je ramène juste à Thibaut de Saint-Paul. Chez l'adulte, ça marche, je suis d'accord. Parce que les adultes sont assez sensibles à ça. Malheureusement, les enfants le sont beaucoup moins.
Pourquoi ça ne marcherait pas chez l'enfant?
Alors, ce n'est pas ça qui marche, ce n'est pas les préventions qui marchent, c'est l'environnement, les copains.
Ouais,
par exemple, quand on a envie de ressembler aux copains, ça peut être motivant. Mais c'est beaucoup plus complexe. Enfin,
alors, ma question piège, si c'est génétique, parce que je me réfère aux statistiques qui sont sorties sur des enfants européens de moins de 5 ans. Il y a quand même des chiffres très disparates en Europe. C'est-à-dire que les petits, par exemple, je citais tout à l'heure en introduction, les petits Irlandais, ils auraient 27% d'enfants en surpoids. Les Royaume-Uni, 23%. La France seulement 11%. Par exemple, la Belgique, 7%. Comment on explique des différences pareilles si c'est génétique? Tous les enfants,
moi aussi, je vais vous poser une question. Savez-vous quel est le pays le plus touché par l'obésité infantile au monde? C'est pas les États-Unis, je vous aide.
J'ai entendu parler de Malte pour les adultes, les
Malte
enfants, je ne sais pas.
Malte arrive effectivement en deuxième position en Europe.
La Grèce.
C'est les îles des Kiribati, qui sont donc des îles de l'océan Pacifique. En deuxième, vous avez les îles Samoa. Les États-Unis sont 40e. Alors, pourquoi en Irlande et pourquoi pas en France? Là aussi, il y a une prédisposition qui est différente. À moins de 5 ans, encore une fois, 60% des enfants gros avant 5 ans ne le reste pas. Donc c'est des mauvaises statistiques avant 5 ans. Moi je préfère aller jusqu'à 20 ans. Et là, entre 12 et 20 ans, dans certains pays comme le nôtre, où l'obésité est très mal vue, quand on est obèse, on est moche, on est feignante, on est beaucoup plus motivé à maigrir qu'en Irlande, où elle est peut-être un peu moins bien vue, au Royaume-Uni aussi. Et donc les grands enfants et les adultes sont beaucoup moins motivés. Donc c'est comme ça qu'on explique. Mais alors, pour expliquer la génétique, les îles des Kiribati sont les îles les plus touchées. Je ne suis pas sûr que là-bas, il y ait des fast-food et des sodas à tous les coins de rue.
Oui, oui.
Mais c'est vrai, effectivement, il y a le facteur génétique, mais vous voyez que l'argument que vous utilisez, c'est un argument de représentation. Et effectivement, et c'est vrai, en Irlande, les représentations du corps sont un corps important, une corpulence élevée, et tout à fait beaucoup plus valorisée, et ça se joue. Mais du coup, on n'est pas que sur le génétique, on est sur une interaction entre le génétique et puis les représentations du corps et l'environnement et tout ce qui va aller autour.
Vous avez entièrement raison, on est d'accord, mais ça fait maigrir. C'est-à-dire que quand on est motivé, entre 12 et à l'âge adulte, on est plus motivé à maigrir. Un enfant de 8-10 ans, croyez-moi, vous ne pouvez pas le motiver comme ça.
Toute dernière intervention d'Aurélie.
Oui, Patrick Tounian, très brièvement, il y a des pistes, des recherches intéressantes pour soigner l'obésité.
Oui, alors avec une équipe allemande, on a mis au point un nouveau médicament qui, dans les premiers travaux, ont fait perdre 50 kilos à des jeunes adultes. Donc l'avenir, c'est quoi? C'est de trouver exactement toutes les causes génétiques de l'obésité, parce qu'on avait trouvé les causes génétiques, puis de donner des traitements spécifiques, comme on l'a fait dans cette publication, et de guérir l'obésité, j'espère vivre assez longtemps, pour voir la génétique avancer et les traitements spécifiques soigner ces patients que j'ai tant de mal à soigner.
Ça veut dire que pour l'instant, on n'en guérit pas, mais dans l'avenir, on en guérira.
Je suis sûr qu'on va réussir à guérir l'obésité et ce ne sera ni la prévention, ni tous ces programmes qu'on entend qui viendront à bout de l'obésité.
Mais ça fait 60 ans. Mieux vaut quand même bien manger, on va dire, pour terminer
secondes. C'est une très bonne clé. Il vaut mieux manger, mais pour éviter les carences et non pas pour éviter l'obésité.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Patrick Tounian, Thibault de Saint-Paul, d'avoir participé à cette émission magazine de la rédaction Obésité, comment protéger les enfants, reportage d'Aurélie Kiefer, réalisé par Yacine Bouzard. Merci à tous les deux, ainsi qu'à Jean Guilin, qui est à la technique ce soir. Vous pouvez réécouter ce magazine dès demain matin sur France Culture pendant 1000 jours sur notre site, le podcaster aussi pendant un an et bien sûr le commenter sur franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine le 7 avril dernier, l'Agence sanitaire Santé publique France a publié une étude sur l'évolution de la corpulence des Français en 10 ans, ce qui nous permet de donner de nouveaux chiffres, de compléter ce qu'on avait dit en avril. Ce qui ressort de cette étude d'Aurélie Kiefer, c'est la stabilité du surpoids, de l'obésité chez les adultes et les enfants.
Oui, en France, 55% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids ou obèses. L'obésité à proprement parler reste autour de 17% pour les adultes. Et là, les hommes et les femmes sont à égalité. Parmi les enfants de 6 à 17 ans, il y a 4% d'obèses. Ces chiffres sont globalement stables sur 10 ans. On peut considérer que c'est positif. L'obésité n'augmente plus, contrairement à d'autres pays. Si l'on regarde le verre à moitié vide, on dira plutôt que le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, n'a pas atteint son objectif de réduction du surpoids. Mais est-ce que cet objectif était vraiment atteignable? Comme on l'a entendu dans l'émission, ces recommandations n'apportent pas toutes les réponses. Des habitudes alimentaires équilibrées et une bonne hygiène de vie peuvent éviter de basculer dans le surpoids ou l'obésité si on n'y était pas prédisposé. En revanche, elle n'empêche pas cette injustice de la nature que dénonçait le professeur Tounian, qui fait qu'on peut être obèse dès la petite enfance.
Alors l'obésité s'est stabilisée, nous dit Santé publique France, mais les cas de maigreur ont augmenté.
Alors pas chez les femmes, il n'y a que 2,5% de femmes maigres contre le double il y a 10 ans, mais l'évolution est inverse pour les hommes. Ils sont aujourd'hui au même niveau que les femmes. Et ce qui frappe le plus, c'est l'augmentation de la maigreur chez les adolescentes. Aujourd'hui, près d'une fille de 11 à 14 ans sur 5 est sous le seuil de normalité. Même si l'on ne parle pas d'anorexie, c'est un chiffre à surveiller.
Merci Aurélie Kiefer. Et pour ceux qui veulent savoir s'ils sont ou non en surpoids, rien de plus simple. Il suffit sur Internet de taper calcul IMC. De multiples sites Internet proposent ce calcul de l'indice de masse corporelle. Et on peut réécouter votre magazine de la rédaction Aurélie sur notre site franceculture.fr.
Thank you.